C'est un logiciel complètement gratuit et qui a réponse à tout. En quelques clics sur votre ordinateur, ChatGPT est capable d'écrire une lettre de motivation ou de rédiger à votre place une dissertation sur la chute du mur de Berlin. Ce robot conversationnel est en passe de bouleverser notre quotidien. Démonstration avec cette interview.
Bonjour ChatGPT.
D'un invité hors norme.
Je suis capable de comprendre et de générer du langage de manière très similaire à celle d'un être humain, mais je suis beaucoup plus rapide et plus efficace pour traiter de grandes quantités de données.
Lancé fin novembre aux États-Unis, le nouveau site d'intelligence artificielle est déjà un phénomène, avec 100 millions d'utilisateurs.
ChatGPT.
Son développeur en est convaincu, le logiciel va changer le monde.
Ce sera une vraie révolution technologique au même titre que l'invention et l'évolution de l'ordinateur.
La concurrence prépare la riposte, notamment Google, qui a présenté il y a quelques jours Bard, un nouveau robot conversationnel.
Parce que la plupart du monde dans lequel on évolue est incertain et que les machines ne savent pas interagir avec de l'incertain. Avec le machine learning, l'intelligence artificielle, y parvient. Elle parvient à dialoguer avec vous, et ça, c'est pas quelque chose de certain, de répétitif comme on l'a dans les automates. C'est quelque chose qui nécessite d'avoir un niveau d'interaction extrêmement évolué, et c'est quelque chose que l'on cherche à atteindre avec l'informatique depuis 60 ans. Et ChatGPT a permis de populariser cette notion-là, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir. C'est des technologies qui sont anciennes, ça fait 10 ans à peu près qu'elles sont sur étagère, mais ce qu'a fait OpenAI, l'entreprise
fondée par Elon Musk.
Voilà, exactement. C'est de faire en sorte que tout un chacun puisse se rendre compte.
Le grand public. Vous l'avez fait tous les trois, d'ailleurs, avant de continuer ce débat.
Alors, le problème, d'ailleurs, c'est qu'il faut s'inscrire, donner, pas sa date de naissance, mais enfin son email et son numéro de téléphone.
Donc des données personnelles.
Et tout ça est vérifié. Alors, j'ai mis un faux nom, heureusement. J'ai mis ChatGPT, il m'a rien dit. Mais néanmoins, contrairement à Google, par exemple, l'accès n'est pas gratuit, puisqu'il faut payer avec son identité, pour commencer déjà.
Oui, je l'ai essayé aussi pour essayer de voir des communiqués de presse, en demandant des choses. Et en fait, c'est vrai que c'est assez soit effrayant, soit impressionnant, selon la façon dont on voit les choses. Ça donne des communiqués de presse comme ceux qu'on peut recevoir. J'en ai demandé un communiqué de presse sur une amende de la Commission européenne qui date d'il y a 3 ans. Et ça m'a tout donné. Et j'avais donné assez peu d'informations justement pour voir dans quelle mesure est-ce que le texte serait précis.
Sans erreur.
D'abord, les révolutions tous les 4 matins, moi, ça me fatigue un peu parce que tous les 2 ans, il y a une nouvelle grande révolution qui va changer l'humanité. Mm-hmm. On lit Montaigne, on s'aperçoit qu'en fait, l'humanité, l'amour, l'amitié, tout ça, ça n'a pas tellement changé depuis 4 siècles et probablement depuis 2500 ans. Donc, je relativise beaucoup tout cela. Par ailleurs, la société doit à chaque fois faire des efforts considérables, y compris de régulation, pour absorber ces nouveautés, comprendre ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, faire le tri. Et rien qu'avec l'Internet, on a encore du mal à savoir comment on régule les data, la gouvernance des données. Et à chaque fois, il faut s'adapter à la révolution quantique, à la révolution de ChatGPT. Et au fond, on a presque envie d'un moratoire pour un peu prendre son temps, souffler et voir ce qu'on fait avec le reste. Et puis, la troisième chose, c'est la définition du progrès. En fait, la grande confusion des esprits, c'est de penser que toute innovation, toute disruption est un progrès. Mais le progrès, c'est savoir trier les mauvaises choses, savoir trier les erreurs. Et on s'est aperçu, avec toutes les innovations, entre guillemets, précédentes, que les réseaux sociaux, finalement, c'est pas génial, ça crée de la manipulation politique à grande échelle. Les moteurs de recherche, finalement, ça enferme les gens dans des bulles de filtre. Les cryptos, formidable, c'est la liberté, tout s'effondre, etc. Donc, je me méfie. Et sur ChatGPT en particulier.
Une productivité sans des frottements très importants sur le marché du travail. C'est-à-dire que, par définition, vous inventez la machine à vapeur, les gens qui sont des maréchaux ferrants, c'est compliqué pour eux, quoi. Et c'est la même chose dans toutes les technologies qui apparaissent. Vous avez tout un tas de métiers qui disparaissent. Je crois que, en revanche, avoir une crainte ludiste, c'est-à-dire le fait que le travail disparaisse, n'est pas approprié. On ne le voit pas, on ne l'a jamais vu.
Il y a des emplois.
Le jour où vous avez les véhicules autonomes, vous avez 15 millions d'emplois qui sont directement liés aux États-Unis au transport. Donc, ça ne sera plus les mêmes types d'emplois. Mais il y aura quand même des gens qui s'occuperont de manipuler ces intelligences artificielles.
De les programmer, puisqu'en fait, intelligence artificielle...
De les programmer, de réparer les robots qui tomberont en panne, etc. etc.
Et oui, c'est peut-être plus des tâches que des métiers qui vont disparaître. Si je prends, pour reprendre mon métier, par exemple, de journaliste, vous aurez peut-être des... ChatGPT ou ce genre de technologies pourront...
Google Bard ou autre.
Oui, voilà, exactement. Oui. Pourront bâtonner des dépêches, mais
des dépêches de l'AFP,
de l'AFP, de l'Agence France Presse. mais pas faire de l'enquête. Donc en fait, c'est pas forcément le métier de journaliste qui va disparaître, mais certaines tâches, et c'est applicable à plusieurs types de métiers. Mais pour revenir sur l'aspect révolutionnaire, c'est pas tant la technologie qui est révolutionnaire, c'est le fait que ça relance la bataille du moteur de recherche, en fait. Et le fait que Microsoft soit emparé de cette technologie avec son moteur de recherche Bing, c'est-à-dire que l'hégémonie de Google des 10 dernières années, qui semble, des 30 dernières années, qui semblait être indélogeable, en fait, ça relance cette bataille-là.
Vous voulez réagir, Gaspard ?
Oui, alors d'abord sur le moteur de recherche, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que ChatGPT ne donne pas ses sources. Et ça, c'est un énorme problème dans la fabrique de la connaissance.
L'opacité des sources, on ne sait pas.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que ces technologies ne sont pas magiques. Qu'est-ce que fait ChatGPT ? Il reprend l'Internet, alors visiblement jusqu'à 2021, mais sans doute un jour pourra-t-il reprendre l'Internet en cours. Et puis, en fonction de ce que les humains ont inventé, créé et dit, eh bien, il va tirer des corrélations, et ces corrélations vont donner un texte, qui n'est donc pas une nouveauté d'une création, et qui repose sur le travail humain. Derrière la reconnaissance du chat, eh bien, il y a des millions d'humains qui ont labellisé des photos de chats. D'ailleurs, souvent des humains qui sont au Bangladesh, au Kenya, qui sont mal payés, etc. C'est encore un autre sujet, parce que ChatGPT les utilise. Pareil sur les innovations médicales. Ah oui, il y a des centaines de milliers d'étudiants qui ont labellisé des scans de tumeurs. Et donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle produit des choses qui s'appuient sur le travail humain, qui ne sont pas créées ex nihilo.
Laissez votre voix.
L'important, c'est que depuis 20 ou 30 ans, la plupart des grands économistes, des analystes de ces technologies s'accordent à dire que le jour où on arrivera à avoir des intelligences artificielles fiables, on va avoir des gains de productivité très importants. Ce jour-là est en train d'arriver.
Dans quel secteur ?
Dans à peu près tous les domaines. C'est que ce soit dans les systèmes automatiques industriels, les systèmes de transport, dans les métiers de col blanc, les métiers tertiaires. Vous le voyez, vous venez de le dire, dans tout ce qui est assistance en général, tous les métiers de contrôle, qui sont très nombreux, sont touchés par ça. Donc c'est une bonne nouvelle. La productivité, je crois, c'est important de le rappeler, c'est la base du progrès. Après, c'est, effectivement, il y a un enjeu de régulation et un couple régulation-innovation à construire qui est important. Mais à cette condition, je crois qu'on peut célébrer cet avènement.
Mais ça dépend de quelles règles on met en place. Ça dépend de jusqu'où on décide de laisser aller la technologie. Ce n'est pas une fatalité, il n'y a pas un ordre... du monde.
Je ne disais pas ça comme une mauvaise chose, est-ce qu'on en est à ce niveau-là d'innovation?
Ben ça, c'est difficile à dire. Et encore une fois, ça dépend de... La médecine, c'est quand même un secteur très spécifique sur les données personnelles, notamment quand on parle de données médicales. Il y a des règles qui sont plus strictes que pour d'autres types de données. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi que la régulation va jouer un rôle, je pense.
Gaspard, non, c'est pas ça. C'est que l'intelligence artificielle puise dans le cerveau.
Oui, c'est pas quelque chose... Donc, on a besoin de faire un moratoire sur le progrès.
C'est pas quelque chose qui est différent.
C'est nous qui la nourrissons.
Mais non, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, tout le monde se rue sur cette GPT. Il y a déjà, qui a un nom d'ailleurs absolument atroce et imprononçable en français, n'est pas très créatif entre nous. Il y a déjà plus de...
Ce sont les Américains qui l'ont créé.
Il y a déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. On se rue là-dessus en faisant à chaque fois la même erreur qu'on a fait pour les technologies précédentes. Et moi, je préférerais maintenant me poser les questions avant, plutôt que de découvrir 2 ans après que c'est une catastrophe, parce que, par exemple, la question des sources est extrêmement grave. Une connaissance sans source, c'est juste pas une connaissance. C'est-à-dire qu'avant Google, il vous donne un paquet de liens un peu compliqué. Et qu'est-ce que les profs essayent d'apprendre aux enfants aujourd'hui, 10 ans ou 20 ans après l'avènement des moteurs de recherche? C'est attention, il faut bien regarder la source, ce qu'on apprend à nos enfants. Voilà. Moi, je n'utilise pas Google.
Donc, vous voulez DuckDuckGo. Vous voulez des garde-fous.
C'est pas ça, c'est que je veux dire. Non, mais même en termes social, plutôt que de se jeter dessus, se dire, mais le fait qu'il n'y ait pas la source est un problème considérable. Parce que ça veut dire qu'il a pris des choses.
La source, c'est nous.
La source des infos. C'est-à-dire qu'il a pris des trucs un peu partout sur les réseaux sociaux. Éventuellement en plagiant d'ailleurs, ce qui pose des questions de droit d'auteur. Et quand vous regardez la manière dont est construit Wikipédia, c'est très intéressant parce que Wikipédia, c'est l'antimodèle.
L'encyclopédie en ligne, non ?
Parce que c'est quelque chose qui est construit par des êtres humains qui discutent ensuite de chaque mot, qui, dans mon expérience, hormis ma propre fiche qui est un désastre, mais j'en parlerai pas ici, est plutôt extrêmement bien fait et objectif et rassurant au fond sur la production de connaissances humaines. Imaginez un Wikipédia qui soit financé par la pub, qui prennent en compte les préférences de chaque utilisateur pour adapter l'information à l'utilisateur, et vous avez quelque chose qui se rapproche plutôt...
beaucoup à dire.
Réponse de votre voisin.
Non, mais c'est... Bon, d'abord...
Et sur les velléités d'interdiction, par exemple, Sciences Po, qui tentent d'interdire...
Première chose, c'est pas que nous qui produisons la donnée qui nourrit les machines en ligne. L'imagerie, par exemple, ce ne sont pas des données qu'on produit. On peut prendre des images du cosmos, de ce qu'on veut, des images médicales. C'est très intelligent pour traiter ce genre de choses. Et donc, ça peut s'alimenter de données qui viennent d'un peu partout sur cet aspect. Deuxième chose, rien n'interdit de faire un modèle de chat GPT à partir de fondations, donc qui neutralise un certain nombre de biais liés au financement de ce genre de choses. Personnellement, je le souhaite et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Puis troisième chose, c'est que je crois qu'un grand débat sur la nature de l'innovation, est-ce qu'on doit mettre la régulation avant l'innovation ou le contraire ? L'Europe a choisi de mettre la régulation avant l'innovation. On a un retard phénoménal sur ces technologies. Et je crains qu'il faille accepter que les technologies arrivent un peu de façon punk, un peu en désordre, et qu'après, il faille, a posteriori, comme ça a été le cas pour l'automobile, comme ça a été le cas pour toutes les techniques qui nous ont précédées, finalement trouver la façon de contraindre leurs usages les plus problématiques.
Laura Kaili.
Ce que fait ce projet de loi européen, c'est de faire la différence entre les types d'intelligence artificielle, de ne pas dire que toute intelligence artificielle est risquée, et justement de faire une catégorisation en termes de risque. Et donc, qui va jusqu'à l'interdiction. Et certains des débats, c'est sur l'interdiction, notamment sur la reconnaissance faciale. Donc, est-ce qu'il faut l'interdire ou pas ? Ça ne parle pas d'intelligence ni militaire, ni à des fins de sécurité. La loi européenne se focalise sur les utilisations civiles. Mais justement, c'est en fonction du risque de votre intelligence artificielle, vous allez devoir être plus ou moins transparent vis-à-vis des régulateurs, mettre en place plus ou moins de garde-fous. Et l'origine aussi de cette loi, c'est de dire...
Il n'est pas sorti, donc il est encore en travail.
En cours de négociation. Donc on en a pour d'habitude à Bruxelles. Mais l'origine aussi était vraiment de dire, de faire la différence entre les différents types et de ne pas mettre tous les types de technologies dans le même bain, en fait.
L'intelligence artificielle vient piétiner cela chez nous.
Absolument, c'était l'objet de ce livre. Je remarque d'ailleurs sur la question des échecs, que depuis 30 ans quasiment maintenant, la machine bat l'homme aux échecs maintenant à tous les coups.
C'est pas et pour au ça jeu de go.
Et maintenant au jeu de go. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a plus de compétition d'échecs. C'est-à-dire que les gens trouvent toujours le même plaisir à jouer les uns avec les autres. Ce qui prouve bien d'ailleurs que ça ne remplace pas ce qui est le propre de l'homme, à savoir le jeu, la sociabilité, la créativité.
Et le progrès n'a pas aboli le libre-arbitre.
Il ne faut pas oublier. Et s'agissant du libre-arbitre, moi, ma grande... Si vous voulez, quand je prends une application d'intelligence artificielle sur mon smartphone pour reconnaître les feuilles des arbres, c'est de la pure IA, c'est formidable, très bien, excellent, grand progrès. Mais quand une intelligence artificielle prétend me dire ce que je dois connaître, qui je dois rencontrer, où sont mes amours et quel métier je dois faire,
c'est-à-dire
quand je lui délègue, quand je commence à lui déléguer mon libre arbitre, parce qu'après tout c'est très confortable.
Il y a des applications que vous n'êtes pas obligé de télécharger.
Oui, mais si vous voulez, le problème c'est que le confort et l'utilitarisme ambiant de cette société et le fait qu'on est de plus en plus obligé de le faire, parce que pour avoir accès à un certain nombre de services maintenant, on est obligé de donner son nom, d'ouvrir un compte. D'ailleurs, comme pour
admettre, et les gens qui font de l'épistémologie travaillent beaucoup sur ces sujets, que on en est très loin. C'est encore une vue de science-fiction. Il n'y a aucune raison de penser que les machines puissent être un jour dotées d'émotions tournées vers elles-mêmes, c'est-à-dire de sentiments. On n'a pas le moindre indice qui nous pousse dans cette direction. Et à cet égard, je pense que les machines seront toujours inférieures à ce que nous sommes. Les biais cognitifs dans l'éducation, c'est un des trucs que les machine learning arrivent à traiter hyper bien. C'est de voir là où vous butez et de vous aider, de renforcer là où vous butez.
Les troubles de l'apprentissage,
c'est exactement. Et franchement, il faut célébrer ça. C'est génial.
Enfin, déjà, les troubles de l'apprentissage de nos enfants, c'est qu'ils sont addicts aux écrans. Et ça, c'est le plus gros trouble de nos jours. C'est pour ça qu'il faut distinguer. Et par ailleurs, sur l'IA, elle n'a pas de conscience, mais surtout ce que dit Yann Lequin, qui est un de nos plus grands chercheurs
intelligence artificielle,
c'est qu'elle n'a pas de sens commun. Et ça, structurellement. Parce qu'avoir du sens commun, ça paraît rien, le bon sens. C'est comprendre tout d'un coup que mon environnement fait sens. Et elle ne peut pas avoir cette notion-là. Donc, par segment, elle va pouvoir être très forte, mais elle ne va jamais pouvoir appréhender une situation dans sa totalité. Et le sens commun, c'est à la base de notre humanité, de nos métiers, de nos interactions, parce que c'est nous qui le fabriquons par notre vivre ensemble, chère Elisabeth.
Merci.